Un peu comme à New York, plusieurs policiers patrouilleurs québécois pourraient être équipés d'armes d'assaut afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'attentat.
Le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada nous apprenait ce matin que les corps policiers du Québec, plusieurs corps policiers du Québec, sont en train de se doter ou se sont dotés de fusils d'assaut pour leurs policiers. Puis là, je parle pas là des escouades tactiques. Là. Les escouades tactiques, ils sont déjà équipés de ces armes très puissantes là, qu'on apparente ou qui s'apparentent davantage à des armes militaires qu'à des armes qu'on voit que les policiers utilisent habituellement. Non. Là, je vous parle de patrouilleurs là. On va doter dans plusieurs corps policiers du Québec là nos patrouilleurs d'armes de combat, d'armes d'assaut de type militaire extrêmement puissantes. Et pour essayer de comprendre quelle est la raison derrière ce mouvement, parce qu'on peut vraiment parler de mouvement tellement il y a de municipalités qui sont dans cette logique-là, on va aller rejoindre Francis Langlois, qui est spécialiste de la question des armes à feu, membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Monsieur Langlois.
Bonjour, Monsieur Dréville.
Expliquez-nous pourquoi les corps policiers, par exemple, à Laval, à Longueuil, à Châteauguay, veulent se doter de ces armes de type, je dirais quasiment du AK-47 là, ou de AR-15 là, qu'on a vu utiliser dans plusieurs attentats aux États-Unis là.
Oui, ben essentiellement, ils vont se procurer des AR-15 et ceux qui sont déjà en service, là, c'est ça qu'ils ont en ce moment. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils vont chercher ce genre de matériel-là? C'est tout simplement parce qu'ils espèrent pouvoir faire face à une menace un peu comme celle qui a affecté Paris à plusieurs reprises, pardon. Pensons à l'attentat contre Charlie Hebdo, où est-ce que deux policiers qui étaient en faction devant le journal hein, avait été abattu par les deux assaillants qui avaient des gilets pare-balles et des AK-47, donc les pistolets de 9 mm des policiers avaient pratiquement rien pu faire là, pour arrêter l'attentat. Ou encore, ben il faut le dire, là, il y a eu un rapport qui a été remis récemment là, contre la GRC qui montrait qu'il y avait eu une négligence, en tout cas qui affirmait qu'il y avait eu une négligence là, dans l'équipement de la GRC lorsqu'il y a eu un fou furieux à Moncton là, qui a abattu trois policiers. Donc, c'est un peu les deux grandes raisons qui sont mentionnées dans la plupart des documents là, que j'ai consultés à ce sujet-là. Là. Donc, c'est pour ça qu'on veut équiper comme ça les policiers.
Ben, dites-nous, là, vous êtes un spécialiste des armes, dites-nous ce que ça change dans une situation comme celle que vous avez décrite, là. Le fait d'avoir une arme plus puissante, qu'est-ce que ça change très concrètement, là?
Mm-hmm. Ben, la plupart des policiers, comme ceux de Montréal, par exemple, sont équipés avec des pistolets qui tirent des projectiles de 9 mm. Donc, ça, ce sont des projectiles qui ont une force de pénétration qui est relativement élevée sur un corps, mais dès qu'il y a un obstacle, comme par exemple un gilet pare-balles, ben là, ils sont plus facilement arrêtés. Donc, ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, face à quelqu'un qui arrive avec un fusil d'assaut, donc un AK-47 ou un AR-15 ou quelque chose de ce type-là, ben évidemment, la cadence de tir est beaucoup moins grande sur un pistolet, la précision est beaucoup moins grande, la portée est beaucoup moins grande et la puissance des projectiles, comme je vous le disais, est beaucoup moins grande. Donc, c'est ça qui va faire la différence dans un assaut comme celui-là. La même chose si quelqu'un est barricadé ou des otages sont pris dans une situation là, dont un attentat ou quelque chose comme ça, ben à ce moment-là, avec des fusils d'assaut de ce type-là qui sont faits pour être utilisés dans un environnement qui est fermé comme des pièces ou des maisons, ben ça donne un avantage aux policiers. Maintenant, est-ce que ça va faire tant que ça la différence? Ben l'idée, c'est que pour eux, vous le mentionniez en début d'entrevue, hein, donc les unités spéciales ont déjà des armes comme ça, mais ce qu'ils se disent, c'est que si, par exemple, il y a un tireur actif dans une école, ou s'il y a une prise d'otage, ou un attentat qui se déroule, vaut mieux que, la puissance de feu soit mieux répartie sur le territoire, et donc soit plus accessible, donc plus rapide à arriver sur les lieux des incidents, et donc c'est la doctrine, en tout cas, qui semble guider les décisions là, qui ont été prises là, quant à l'équipement là, des différents policiers là, avec ce type d'armes-là. Là.
Vous trouvez-vous que c'est une bonne idée?
J'avoue que de disséminer ce genre d'armes-là un peu partout, à gauche, à droite, sans qu'il y ait de politique générale, généralisée à l'ensemble du Québec. Donc là, ça se fait, hein, vous le voyez, vous l'avez mentionné vous-même, il y en a ici à Trois-Rivières, il y en a à Laval, à Châteauguay, etc. On s'équipe, mais pas à Montréal, pas à Québec. Ça a l'air d'être fait un peu à la va comme je te pousse. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. Puis évidemment, il y a toute la question de la formation. Ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher à s'équiper. Vous regarderez les bordereaux de commandes sont assez élevés.
On parle je veux pas la facture totale, mais mettons un AR-15, là. On parle de ça coûte combien, ça? Juste.
Pour avoir une idée, un AR-15 avec l'équipement qu'ils mettent dessus, donc différentes poignées, des suppresseurs, des choses comme ça, autour de 1 200 à 1 500 $ l'unité. Là.
OK.
Donc, ça peut monter assez vite comme facture. Et là, on ne parle pas des munitions, on ne parle pas de l'entraînement, on ne parle pas de l'entretien, de l'entreposage de ces armes-là. Donc, tout ça, ce sont des frais qui se rajoutent. Et comment je pourrais dire, le service aux citoyens, lui, reste le même, là, si vous voulez, à part, évidemment, la puissance de feu de la police qui est augmentée.
Mais est-ce que l'entraînement suit? Parce que... C'est bien beau d'avoir entre tes mains une arme à ce point puissante, mais il faut que tu saches comment l'utiliser pour pas que ça devienne pour pas que ça soit dangereux quand tu vas l'utiliser, justement, là.
Absolument. Donc, ce qui explique pourquoi à l'école de police, ici à Nicolet, les cours qui sont offerts pour le maniement de ces armes-là sont beaucoup plus fréquentés qu'auparavant. Donc, évidemment, les différents corps policiers qui équipent leurs membres de ce matériel-là ben, envoient leur monde s'entraîner. Mais évidemment, ce sont des coûts là, qui sont additionnels. Là, évidemment.
Mais moi, je vais vous dire, M. Langlois, mm-hmm. Si on est pour être davantage en sécurité, OK?
Oui.
Si nos policiers sont pour être davantage équipés pour faire face à des menaces comme celles dont on a parlé, par exemple des tueurs qui rentrent dans les écoles ou qui se livrent à des tueries de masse, si on est pour donner à nos policiers plus de moyens pour assurer la sécurité de nos enfants dans les écoles puis pour assurer notre sécurité, sérieusement, je pense que je suis prêt à payer pour ça, moi, là. Tu sais, la facture, c'est pas mon premier critère quand il est question de sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est vraiment très, très important. Mais je veux juste qu'on me convainque qu'on va être davantage en sécurité avec ces armes-là. Puis je comprends, a priori, puis moi, je suis pas anti-armes, soit dit en passant, là, je suis pour un contrôle des armes, mais je suis pas un freak, là, qui... Tu sais, je vis pas, là, moi, sur la planète rose-bonbon, là. Je sais qu'à un moment donné, il y a du monde qui sont dangereux, puis les policiers sont là pour les arrêter. À un moment donné, il faut que tu sois capable de te battre à armes égales, c'est le cas de le dire. Mais je veux juste être bien certain que si effectivement nos policiers sont équipés avec des armes beaucoup plus puissantes ou des armes d'une puissance égale à celle qui est utilisée par les tireurs fous ou encore par les terroristes, mais éventuellement ils vont s'ajuster dans l'autre camp là, ils vont arriver effectivement avec quelque chose de plus puissant et là tu te dis jusqu'où, tu sais à partir de quand on met le doigt dans un engrenage qui est sans fin.
Absolument, donc je pense que vous avez raison, on fait bien d'en discuter, je pense que de sortir cette histoire-là est très bien parce que ça se faisait en catimini, on clamait pas ça trop haut et fort, donc je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion avec le politique à Québec notamment, réfléchisse à tout ça. Même la Sûreté du Québec est en train de s'équiper de surplus militaires là, de l'armée canadienne. Donc, il faut réfléchir à ça, effectivement.
En même temps, vous le disiez vous-même, c'est pas pour rien que les policiers veulent l'avoir. C'est parce qu'ils savent, ils ont vu ce qui s'est passé ailleurs. Et ils n'ont pas le goût de vivre ça ici, là. Ils ont le goût, justement, d'apprendre de ce qui a pu se passer, par exemple, au Nouveau-Brunswick, là. Quand c'est quoi, c'est 3 ou 4 policiers de la GRC qui ont été tués
oui.
C'était Bourne, son nom, je pense, ou Bourque, en tout cas.
Bourque,
voilà. Ouais, Bourne, c'est l'autre. Alors,
oui.
Fait que je peux comprendre que les policiers de chez nous se disent, ben là, on va pas attendre qu'une tragédie comme celle-là se produise chez nous. On va tirer les conclusions, puis on va s'équiper en conséquence. Alors, je peux les comprendre. C'est juste que c'est pas juste une question de police. C'est pas juste une question policière.
Non, effectivement.
Hein? On s'entend. Hein?
Vous avez absolument raison.
Francis Langlois, spécialiste de la question des armes à feu, membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci pour la discussion.
Passez une excellente journée, M. Drainville.
Vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Dans un instant, les camions et les VUS toujours prisés chez les Québécois.